Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez SBS French, votre programme en français, un programme qui va durer une heure. Au micro aujourd'hui, Marianne Murat, je suis très contente de passer cette heure en votre compagnie. Comme chaque samedi, nous allons vous présenter la rétrospective, direction la Chine aujourd'hui et un souvenir sombre de l'histoire 1989 et le massacre de la place Tiananmen raconté par Léo Roussel. Puis on va longuement parler de la décision Mabo, souvenez-vous, cette décision de justice qui a rendu légalement leurs terres aux aborigènes. C'était il y a 30 ans, seulement 30 ans. C'est Grégory Pless qui en discute avec l'historien Romain Fati. Ils évoquent également les promesses faites par le nouveau gouvernement albanisi à l'égard des communautés indigènes. C'est en dernière partie d'émission. On commence tout de suite avec le journal. Les titres de l'actualité de ce samedi 4 juin, 100e jour de la guerre en Ukraine. La Russie poursuit son offensive. Elle détient 20% du territoire ukrainien selon Kiev, qui pourtant l'assure par la voix de son président. L'Ukraine va gagner cette guerre. La reine Elisabeth II absente des festivités du jubilé qui célèbre ses 70 ans au pouvoir. On l'a vu le premier jour, c'était jeudi. Depuis, la souveraine de 96 ans se repose, de quoi relancer les questions sur son état de santé. Emmanuel Macron détaille la ligne directrice de son second mandat dans une interview accordée à la presse régionale. Écologie, pouvoir d'achat, institutions, le chef de l'État veut réunir un Conseil national de la refondation s'il gagne les élections législatives. Et enfin, du sport, l'affiche pour la finale homme de Roland-Garros. Nadal contre Rudeux, ce dimanche, 14e finale sur la terre battue parisienne pour Rafa. Il n'en a perdu aucune. On ouvre ce journal avec ce chiffre tristement rond, 100. Hier, c'était le 100e jour de l'invasion russe en Ukraine. On fait tout de suite le bilan avec Franck Alexandre pour Radio France Internationale.
Au matin du 24 février, le Kremlin était persuadé qu'il ne lui faudrait que quelques jours pour s'emparer de l'Ukraine. Trois fronts simultanés sont ouverts, objectif Kiev, le Donbass et le sud du pays. Plus de 100 000 hommes sont engagés, mais rapidement l'opération spéciale, comme la désigne Moscou, se heurte à une farouche résistance. Non seulement en termes d'effectifs, le rapport de force n'est pas en faveur des Russes, mais l'armée ukrainienne bénéficie d'un armement de haut niveau, notamment avec les missiles portatifs anti-chars fournis en quantité par l'Occident et qui vont décimer les colonnes blindées adverses. En trois mois, Moscou va ainsi perdre près de 700 chars de combat mal renseignés, mal ravitaillés, sans suprématie aérienne. L'armée russe, dès la fin avril, se résout à revoir ses ambitions à la baisse et bascule son effort sur le Donbass. Dès lors, le rouleau compresseur russe, axé sur l'artillerie, se met en place. Le conflit prend une tournure de guerre d'usure, mais l'armée russe, qui n'a pu régénérer ni son matériel ni ses troupes, s'épuise, plus de 15 000 soldats auraient été tués de part et d'autre et le conflit, juge les experts militaires, pourrait durer et se muer en une guerre de position entrecoupée de nécessaires pauses opérationnelles.
De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est certain de la victoire de son pays. C'est en tout cas ce qu'il a clamé dans une courte vidéo postée sur Instagram hier justement pour l'anniversaire. On l'écoute.
The faction leader is here. The head of the presidential office is here. The prime minister is here. The presidential advisor is here. The president is here. Our team is much larger. The Ukrainian armed forces are here. Most importantly, our people are here. We have defended Ukraine for 100 days already. Victory will be ours. Glory to Ukraine. Glory to heroes.
De l'autre côté du front, ce centième jour a été marqué par la visite à Moscou du président de l'Union africaine Macky Sall. Entre Vladimir Poutine et le président sénégalais, il a été question des blocages des exportations de céréales qui menacent la sécurité alimentaire mondiale et surtout la sécurité alimentaire du continent africain. Pour Macky Sall, il ne fait aucun doute que les Occidentaux doivent lever les sanctions. Écoutez.
Et qu'il fallait absolument...
We told Russian President Vladimir Putin that he absolutely had to help to facilitate the export of Ukrainian seeds. But above all, Russia must also be able to export fertilizers and food products, mainly cereals, since it is the country that exports the most cereals. Obviously, these requests are incompatible with sanctions. This is why we thought, after this exchange, to appeal to Western partners. I also salute the American position on this matter, as they lifted the sanctions regarding food, provisions and fertilizers.
Et quant à Vladimir Poutine, il soutient lui que les Occidentaux se trompent en l'accusant d'empêcher les exportations de céréales ukrainiennes. Il assure qu'il existe de nombreuses solutions.
Il est possible d'exporter les céréales ukrainiennes à partir des ports qui sont sous le contrôle de l'Ukraine, à partir d'Odessa et des ports voisins. Ce n'est pas nous qui avons miné les ports et leurs environs. C'est l'Ukraine qui l'a fait. J'ai déjà dit à plusieurs reprises à tout le monde, faites-les déminer et laissez les navires chargés de céréales sortir des ports. Nous garantissons leur passage pacifique sans aucun problème. La seconde possibilité est de faire partir des ports de la mer d'Azov. Berdiansk et Mariupol sont sous notre contrôle. Nous sommes prêts à régler tous les problèmes d'exportation. Nous allons mettre en place toute la logistique nécessaire. Troisièmement, il est possible d'exporter des céréales de l'Ukraine à travers le Danube et à travers la Roumanie. Quatrièmement, il est possible de passer par la Hongrie, par la Pologne. Oui, il y a certains problèmes techniques pour les wagons, par exemple, mais il est possible de les régler en quelques heures et c'est tout. Enfin, le plus simple est l'exportation à travers le territoire de la Biélorussie.
On va regarder de plus près ce qu'il se passe sur le terrain maintenant. L'armée russe qui resserre son emprise dans l'est du pays. 20%, on le disait en titre, 20% de la totalité de l'Ukraine est occupée selon Kiev. Les troupes pillonnent en continu Severodonetsk, mais également un ensemble de localités proches, formant ainsi un étau de plus en plus serré dans la région de Louhansk. Les habitants vivent sous pression constante. À Lysychansk, on retrouve les envoyés spéciaux de RFI, Sébastien Nemeth et Jade El-Khoury.
La famille vit à l'intérieur d'une maison isolée. Leur village est quasi désert et tout autour, les forces russes resserrent leur étau. Ludmila et ses proches sont coincés.
Nous n'avons nulle part où aller et nous n'avons pas assez d'argent. Si nous partons, nous avons peur de ne plus jamais pouvoir rentrer. On vit dans la terreur et tout est coupé. Gaz, électricité, eau, et il n'y a presque plus rien dans les boutiques du village. On survit en partie grâce aux légumes du potager.
Chaque jour, les Russes gagnent du terrain et les bombes se rapprochent. Karina s'inquiète plus que tout pour ses enfants.
Les enfants ont peur, ils nous demandent ce que sont ces bruits, ce qu'est la guerre, pourquoi les Russes sont là. On essaye de leur expliquer, mais c'est difficile pour eux de comprendre.
Dans un village voisin, Viktor Nikolaevitch coupe son bois, comme d'habitude. Ce veuf vit seul et pour lui, pas question de bouger en dépit du danger.
Je ne partirai jamais, même si on me donne un appartement aux États-Unis, je préfère rester ici. Si les Russes prennent ce territoire, je resterai ukrainien et cette terre sera toujours ukrainienne.
Les Russes poussent afin d'isoler cette poche de territoire encore contrôlée par l'Ukraine. S'ils y parviennent, ses habitants seront coupés du reste du pays.
Pour clore cette page largement consacrée à l'Ukraine, cette dernière information, le Quai d'Orsay a confirmé la mort d'un Français à Kharkiv, selon les informations des radios françaises ce matin. Il s'était engagé comme soldat dans une légion étrangère ukrainienne après l'appel à la mobilisation lancé par Volodymyr Zelensky en début d'invasion. C'est le troisième Français décédé sur le sol ukrainien depuis le début de la guerre. Dans le reste de l'actualité internationale, ce samedi 4 juin marque le 33e anniversaire du massacre de la place de Tiananmen à Pékin. Dès hier, la police de Hong Kong a interdit toute veillée commémorative, comme c'était la coutume jusqu'en 2020. Année où la loi très répressive sur la sécurité nationale a été promulguée. On écoute ce Hongkongais qui regrette ne plus pouvoir commémorer cette date comme avant.
I think that lighting a candle is very meaningful, but because of the restrictions here at this venue, I don't think that I can light a real candle. The feeling of a real candle is really different. The heat, the smoke, you can smell it.
Le 33e anniversaire du massacre de la place de Tiananmen, c'est justement le sujet de notre rétrospective du jour. Rétrospective préparée par Léo Roussel, à écouter sur SBS French un petit peu plus tard dans cette émission ou à retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french. On prend maintenant la direction du Royaume-Uni et elle ne sera finalement pas présente ce samedi pour le deuxième jour consécutif. Elle, c'est la reine Elisabeth II, elle est absente des festivités de son jubilé. Après avoir manqué la cérémonie donnée à la cathédrale Saint-Paul hier, elle n'ira pas non plus à la traditionnelle course hippique d'Epsom. C'est sa fille, Anne, qui la représentera. Une absence qui était attendue en toutefois, puisque Buckingham Palace avait déjà fait savoir il y a quelques mois que la reine, âgée de 96 ans, ne participerait pas à tous les événements durant les 4 jours de fête. À Londres, la correspondance d'Emeline Vin.
Ce n'est pas le premier événement qu'Elisabeth II manque pour raison de santé. Shrena, venue avec son fils et plein de drapeaux, espérait vraiment apercevoir la reine à la cathédrale.
Mon fils était triste et moi aussi de ne pas la voir, mais elle doit se reposer naturellement et préserver son énergie. On était déçus, mais on a pu voir les autres membres de la famille royale. C'était super.
Se reposer après une longue journée, Bev comprend, bien sûr, mais la jeune femme est persuadée que l'apparition au balcon jeudi n'était pas la dernière de la reine.
Ce serait affreux. On sait qu'elle n'abdiquera jamais. Jamais, elle l'a promis. Je pense qu'elle va ralentir le rythme, mais elle va choisir ce qu'elle a vraiment envie de faire.
T-shirt et boucle d'oreille aux couleurs du drapeau, Sylvia non plus n'est pas prête à dire au revoir à sa souveraine.
J'ai le sentiment qu'elle vivra jusqu'à 100 ans, voire plus, comme sa mère. Il lui reste encore plusieurs années devant elle, je pense. J'espère en tout cas qu'elle vivra plus longtemps.
Les spectateurs espèrent une dernière apparition lors du grand défilé dimanche après-midi.
Et justement, dans ce contexte de jubilé, une île sur le lac Burley Griffin à Canberra vient d'être nommée en l'honneur de la reine. Aspen Island sera désormais plus connue sous le nom de Queen Elizabeth Island, annonce faite par le Premier ministre Anthony Albanese lors d'une cérémonie d'hommage à celle qui est venue 16 fois en Australie en 70 ans.
For 7 remarkable decades, Her Majesty has been the embodiment of grace, fidelity and dignity, and Australia has a deep affection for her. She's, after all, the only reigning monarch most of us have known, and the only one to have ever visited our great nation of Australia.
Un mot de politique française à présent et un mois et demi après sa réélection, Emmanuel Macron détaille les grandes lignes de son projet politique lors d'une interview accordée à la presse quotidienne régionale. Le chef de l'État annonce la création d'un Conseil national de la refondation après les élections législatives des 12 et 19 juin s'il les gagne. Anthony Latier, RFI.
Emmanuel Macron assume la référence au Conseil national de la résistance mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Le moment que nous vivons impose, selon lui, un changement profond de modèle. Alors qui prendra part à ce Conseil national de la refondation? Eh bien les forces vives de la nation et des citoyens tirés au sort. Leur rôle est encore flou, mais ils devront ensemble chercher des solutions sur les réformes à venir sur l'école ou la santé. Des concertations seront lancées dès cet automne. À la même période, sera mise en place une commission transpartisane pour changer les institutions. Quant à la réforme des retraites, elle devra entrer en vigueur dans un an. Mais pour mettre en œuvre cette feuille de route, Emmanuel Macron doit d'abord gagner les élections législatives. Le président, en retrait jusqu'ici, durcit donc le ton en ciblant ses deux adversaires Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, dont les projets sont synonymes d'après lui de désordre et de soumission. En cas de victoire de la gauche, Emmanuel Macron laisse entendre qu'il ne nommerait pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Dans la Constitution, explique-t-il, aucun parti ne peut imposer un nom au président.
La météo de ce samedi après-midi, il fait nuageux à Perth, 18 degrés. Du vent et des averses à Adélaïde, comptez 15 degrés. À Melbourne, je regarde par la fenêtre maintenant, il fait plutôt nuageux, 15 degrés. Hobart, nuageux, 13 degrés également. Canberra, il y aura probablement des averses, 11 degrés. Sydney, du soleil, 18 degrés. Brisbane, 23 degrés. Cairns, 29. Et Darwin, du soleil, comptez 32 degrés.
Vous aimez le programme en français ? continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Et le rappel des titres de ce samedi 4 juin, 100e jour de la guerre en Ukraine. La Russie poursuit son offensive. Elle détient 20% du territoire ukrainien selon Kiev. La reine Elisabeth II absente des festivités du jubilé qui célèbre ses 70 ans au pouvoir. De quoi relancer les questions sur son état de santé. Et enfin, le président français Emmanuel Macron détaille la ligne directrice de son second mandat. Écologie, pouvoir d'achat, institution. Il veut réunir un conseil national de la refondation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez toutefois sur SBS French puisque ce n'est bien sûr pas la fin de cette émission en français. Il nous reste encore 44 minutes à passer ensemble. Et tout de suite, c'est le journal des sports. On connaît enfin l'affiche de la finale homme de Roland-Garros. Le journal des sports de ce samedi 4 juin 2022 et on commence avec du tennis bien sûr. On connaît l'affiche de la finale homme de Roland-Garros. Ce sera ce dimanche, l'Espagnol Rafael Nadal contre le Norvégien Casper Ruud. C'est une 14e finale pour Rafa, à savoir qu'il n'en a perdu aucune. Il s'est qualifié sur forfait après l'abandon d'Alexander Zverev blessé à la cheville. Après un match de 3 heures hein, tout de même, l'Allemand a quitté le court en pleurs et en fauteuil roulant. Il a depuis donné de ses nouvelles via une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.
Hey guys, very difficult moment for me today on the court. Obviously, fantastic match until happened what happened. Looks like I have a very serious injury, but the medical team and the doctors are still checking on it and. We'll keep you updated. We'll let you know as soon as we know more. And I want to congratulate Rafa, obviously, and incredible achievement, 14th final. Hopefully he can go all the way and make some more history. But not an easy moment for me today. And I'll keep everybody updated. See you guys.
Et Rafael Nadal, qui en conférence de presse a salué son adversaire.
Very sad for him, honestly. No, he was playing unbelievable tournament. I know how much he's fighting to win a Grand Slam, but for the moment he was very unlucky. No, and the only thing that I am sure is he's gonna win not one, much more than one. So I wish him all the very best and very fast recovery.
Le joueur Richard Gasquet a assisté à ce match. Le Français qui a été éliminé, on le rappelle, dès le 4e jour du tournoi face à Sébastien Corda. On écoute sa réaction et son analyse.
C'est terrible, c'était un match fabuleux. Sacha a joué un tennis incroyable. Bon, il n'a pas réussi à finir les sets, le premier set, le deuxième set. Mais malgré ça, c'était quand même un combat féroce. Ça jouait très très bien au tennis, énormément d'intensité. Et c'est vrai que la fin avec les cris et les pleurs, c'était horrible à voir. Quoi. Ça peut venir peut-être après une intensité qui était tellement féroce que bon, une blessure peut arriver, une perte de lucidité, tout peut arriver. Ça jouait tellement bien au tennis et c'était tellement un match de haute intensité que voilà, on espère en tout cas que ce n'est pas très très grave pour lui. Quoi.
Voilà Nadal en finale, 14e finale pour Rafael Nadal.
Incroyable. C'est vrai qu'il était dominé sur le premier set, deuxième set, il était vraiment dominé. Mais bon, encore une fois, il s'en sort et c'est lui qui en finale. En Australie, c'est pareil, 6 mois d'arrêt, un Covid, c'est lui qui gagne le tournoi. Ici, 2 mois d'arrêt avec une côte, c'est lui qui est en finale, donc il est immortel.
En finale, donc, ce dimanche, face à Rafael Nadal, le Norvégien Casper Ruud, 8e mondial. Il disputera, lui, sa première finale d'un tournoi du Grand Chelem. Il a battu le Croate Marin Cilic en 4-7, 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. On l'écoute après sa victoire.
To be able to play a Grand Slam final is something I've looked up to always on TV, and I'll of course give it my all, and feels very, very exciting. Yeah, it's obviously going to be tough. I know we all know what a great champion is and how well he plays in the biggest moments and the biggest matches. So I'm just going to try to enjoy. I will be the underdog, and I will try to, tonight and tomorrow night, dream about great winners and.
unbelievable rallies because that's what it's going to take if I want to have any chance, and I will need to play my best tennis ever. And but I still have to believe that I can do it. And I think part of my game today was very well, or was working very well. And in the end, I was playing great in the third and fourth set.
Voilà pour Casper Ruud qui joue sa première finale d'un tournoi du Grand Chelem face à Rafael Nadal qui joue sa 14e finale. On le rappelle, il n'en a perdu aucune. Côté femme, la Polonaise Iga Swiatek, grande favorite, sera opposée à Coco Gauff, une Américaine de 18 ans, qui va elle aussi disputer sa première finale en Grand Chelem. On écoute la numéro 1 mondiale.
I didn't have any exact goals on this tournament, and just seeing how my game is developing every match, it's something that's giving me a lot of, you know, hope, and I'm just proud of myself. You can see that Grand Slams have different atmosphere, and sometimes the ones that are, you know, the favorites are losing early. So I try to really lower my expectations and just take it step by step. But yeah, I feel like this season everything clicked. The work that I've been doing physically, tennis-wise, and mentally, you know, last season for sure I was doing a lot, but I was still, you know, getting experience. And right now I'm using the experience to get everything, you know, to work properly.
Iga Swiatek, la finale femme, c'est à suivre tout à l'heure, 15h heure française, 23h heure de Melbourne. Du football est entré en matière assez ratée, hein, des Bleus en Ligue des Nations. Les Français se sont inclinés à domicile face au Danemark sur la pelouse du Stade de France, 2-1. Tenant du titre, les hommes de Didier Deschamps restaient sur 7 victoires consécutives pourtant, mais ils n'ont pas réussi à récidiver cette fois. On écoute Hugo Lloris, il est le capitaine des joueurs tricolores.
Il n'y a jamais de bon moment pour connaître la défaite. Maintenant, il faut que ça nous serve. On va continuer à travailler. Le chemin est encore long jusqu'à la Coupe du Monde et puis également dans cette nouvelle compétition qui démarre. Et c'est jamais bon de démarrer par une défaite. Et tomber face à une très bonne équipe, bien organisée. Après, le regret qu'on peut avoir, c'est qu'à 1-0, on a quelques situations pour les mettre ce deuxième. Maintenant, il y a un match lundi et il va falloir aller chercher les points là-bas, en Croatie.
Vous l'avez entendu, hein, le prochain match de la France, ce sera lundi face à la Croatie, 18h45 en temps universel. Cela veut dire 4h45 du matin, mardi donc, heure de Melbourne. LeBron James coche une nouvelle case dans son parcours exceptionnel. 4 fois champion de la NBA, le basketteur est, selon Forbes, devenu milliardaire. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un basketteur américain possède un revenu à 10 chiffres, mais Michael Jordan l'avait fait avant lui. Mais LeBron James est le premier joueur de la NBA à être milliardaire, tout en étant encore en activité. Les explications de Pauline Glaise.
En 19 ans de carrière, LeBron James a fait fructifier son talent et son image. Élu 4 fois meilleur joueur de la saison de NBA, il ne doit qu'une partie de sa fortune aux rémunérations directes de ses clubs. Ses années passées avec les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et maintenant les Los Angeles Lakers ne lui ont rapporté que 385 millions de dollars en salaire. Hors des parquets, le double médaillé olympique a conclu de juteux contrats publicitaires, notamment avec Nike, la marque avec qui, rappelle Forbes, il a signé dès ses 18 ans, rejetant alors des offres de Reebok et Adidas. Grâce à Nike ou à ses accords avec la compagnie télécom AT&T, avec PepsiCo ou les supermarchés Walmart, il s'est classé deuxième sportif le mieux payé entre mai 2021 et mai 2022 dans le monde. LeBron James est aussi un investisseur. Il a notamment misé sur une chaîne de pizzeria et il est actionnaire du club de foot de Liverpool et de la franchise de baseball des Boston Red Sox. Malgré un train de vie dispendieux, LeBron James dispose encore, selon les estimations de Forbes, d'au moins un demi-milliard de dollars d'actifs en plus de 3 grandes propriétés.
Voilà pour le journal des sports de ce samedi 4 juin 2022. Nous sommes le 4 juin et comme chaque samedi, c'est l'heure de la rétrospective. Aujourd'hui, nous remontons en 1989 en Chine sur un événement qui a fait à l'époque le tour de tous les écrans de télévision des pays de l'Occident. Le 4 juin, le leader chinois Deng Xiaoping donnait l'ordre à l'armée de tirer sur la foule pour évacuer la place Tiananmen à Pékin. Au moins 10 000 manifestants sont décédés ce jour-là. Retour sur une nuit de massacre avec Léo Roussel et des archives sonores de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, de Arte et de France Télévisions.
Je suis consterné par la répression sanglante qui vient de s'abattre à Pékin sur une foule de manifestants désarmés. On a utilisé la force brutale pour arrêter ou freiner la poussée grandissante des idéaux de liberté.
Arrêter ou freiner la montée des idéaux de liberté, c'est ce que condamne Roland Dumas, ministre français des Affaires étrangères sous François Mitterrand, au lendemain d'une nuit de terreur. Ce qui vient de se passer en Chine dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 juin 1989 est inacceptable. Sur la place Tiananmen à Pékin, l'armée a tiré sur la foule, sur des dizaines de milliers de personnes, sur des manifestants, dont de très nombreux étudiants pour être précis, qui occupaient la place depuis près de 7 semaines. Deng Xiaoping, le leader chinois, a ordonné à l'armée de disperser la foule par tous les moyens, en ouvrant le feu donc, mais aussi en envoyant des blindés foncer sur la foule. Plusieurs milliers de personnes seront tuées. Ces événements, que l'on regroupe aujourd'hui souvent sous le nom de massacre de la place Tiananmen, sont le point d'orgue d'une répression et de manifestations qui couvaient déjà depuis plusieurs semaines. Je vous propose, pour commencer, d'écouter cet extrait de documentaire diffusé sur Arte en 2019, dans lequel Pierre Aski, journaliste français, revient sur le contexte économique et surtout social en Chine à l'époque.
1989, c'est une année charnière pour la Chine parce que Mao est mort en 1976. Tout un plan de réforme économique, d'ouverture de la société a été engagé par la suite. Mais en 1989, il y a une crispation autour des questions de la corruption, autour de la question de la démocratisation et le processus de réforme est enlisé.
Alors, un événement va mettre le feu aux poudres, la mort de Hu Yaobang, l'ancien secrétaire général du Parti communiste chinois, le 15 avril 1989, 2 ans après avoir été évincé par des opposants politiques. Hu Yaobang, c'est un réformiste admiré dans les milieux étudiants et universitaires qui vont lui rendre hommage sur la place Tiananmen et réclamer la poursuite de réformes pro-démocratie, pro-liberté d'expression ou encore anti-corruption. Cet hommage va finalement prendre la forme d'une véritable mobilisation sur cette place centrale de Pékin et pendant la deuxième partie du mois d'avril 1989, les protestations s'enchaînent dans le pays. Dans la nuit du 21 au 22 avril, notamment la veille des funérailles de Hu Yaobang, plus de 100 000 étudiants accèdent à la place Tiananmen malgré l'interdiction du rassemblement par les autorités. S'ensuivent plusieurs manifestations pacifiques chaque jour dans les rues de Pékin et regroupant toujours plus de personnes sur la place Tiananmen. Ces manifestations vont voir le gouvernement se diviser quant à la réponse à apporter. Toujours sur la même place, le 13 mai, environ un millier d'étudiants entament une grève de la faim, 2 jours avant la visite du dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev. Sa présence à Pékin permet aux journalistes venus du monde entier de braquer leurs caméras sur le mouvement de protestation sociale, place Tiananmen. Une énorme déception supplémentaire pour le gouvernement chinois qui ne peut pas célébrer la venue de Gorbatchev comme elle l'entend, à savoir en l'emmenant sur la place si symbolique de Tiananmen. La tension grimpe donc encore d'un cran entre manifestants et gouvernement et Deng Xiaoping semble impuissant. Si bien que le 20 mai, encouragé par le premier ministre Li Peng, Deng Xiaoping proclame la loi martiale, il fait appel à l'armée pour réprimer définitivement le mouvement de manifestation. Malgré la loi martiale, la protestation place Tiananmen tient, elle se poursuit et les étudiants tentent toujours d'établir un contact sérieux avec le gouvernement concernant leurs revendications. comme l'explique ce reportage d'Antenne 2 le 21 mai 1989.
Pékin se réveille et s'achemine vers une nouvelle journée de lutte contre le pouvoir. Dans quelques heures, ces rues regorgeront de monde. Chaque jour, les étudiants organisent de nouveaux cortèges, balais incessants qui irriguent la ville sous le regard parfois impuissant de la police. Bravant une fois de plus la loi martiale, ils se dirigent vers la majestueuse place Tiananmen, rejoindre ceux qui ont veillé, près de 200 000 étudiants qui soutiennent les grévistes de la faim. Au fil des heures, certains épuisés par une semaine de jeûne, abandonnent, évacués par les étudiants en médecine, organisés, méthodiques.
Ce non-respect de la loi martiale s'en est trop pour le gouvernement et Deng Xiaoping. Après plusieurs nuits où l'on redoute une intervention armée des militaires côté manifestants, l'évacuation de la place est finalement ordonnée le samedi 3 juin. Après plusieurs tentatives, l'armée parvient finalement à entrer sur la place et commence alors une nuit de chaos.
Des blindés foncent sur l'avenue Chang'an vers la place Tiananmen. Cette fois-ci, les ordres sont formels. Dégagez la place sous peine de cour martiale. Les chars se précipitent sur la statue symbole de la liberté, sur la foule aussi. Certains tankistes, pris de panique, perdent le contrôle de leur véhicule. Les manifestants foudragent, s'acharnent. Le conducteur est emmené. On a retrouvé le corps calciné de l'un d'entre eux, pendu à un autobus.
L'armée a donc tiré sur la foule, a foncé sur les manifestants avec des blindés. Tout ça pour éteindre une protestation prônant liberté et démocratie. Le gouvernement chinois déclare à la fin du mois de juin que 200 civils et plusieurs dizaines de membres du personnel de sécurité ont trouvé la mort lors de ces événements, mais la plupart des estimations sont bien plus larges. En 2017, des documents britanniques récemment publiés révélaient que l'ambassade britannique de Chine à l'époque chiffrait à au moins 10 000 le nombre de décès. Plus de 30 ans après le massacre, les commémorations en hommage aux nombreuses personnes décédées sont également interdites en Chine et le gouvernement traque ceux qui tentent d'organiser des veillées commémoratives, y compris à Hong Kong, où cette année, il n'y aura aucune commémoration. Ce samedi, à l'occasion du 33e anniversaire du massacre, en revanche, des veillées seront organisées un peu partout dans le monde, à Sydney, en Australie, à Washington et San Francisco aux États-Unis, à Séoul, en Corée du Sud, ainsi qu'à Oslo, Paris, Amsterdam ou encore Londres, en Europe.
On vous en parlait en sommaire, hein. Hier, vendredi 3 juin, nous célébrions le 30e anniversaire de l'arrêt Mabo. Cette décision de justice ayant conduit à l'abrogation du concept de terra nullius, concept qui niait l'existence même des aborigènes, une décision révolutionnaire, je cite, d'après Romain Fati, qui a répondu aux questions de Grégory Pless.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Mabo Day, une journée nationale célébrée depuis 30 ans en Australie, qui tombe donc le 3 juin. Mabo, ça fait référence à une décision de justice très importante, tellement importante d'ailleurs que c'est devenu une journée nationale justement, mais surtout elle fait référence à un homme, Eddie Mabo, qui avait, il y a donc maintenant plus d'une trentaine d'années, déposé un recours en justice pour faire reconnaître ses droits de propriété sur une partie du territoire australien. On va donc revenir sur cette histoire qui est vraiment structurante dans l'histoire politique australienne et celle des aborigènes en particulier, en tout cas des communautés indigènes. Et comme souvent quand on revient sur le passé de l'Australie, on est aujourd'hui avec Romain Fati, historien à l'université Flinders d'Adélaïde. Bonjour Romain Fati.
Bonjour et merci de me recevoir.
Alors on va peut-être commencer par ce monsieur, Eddie Mabo. Qui était-il exactement? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui, son parcours?
Alors, Eddie Mabo est un aborigène australien qui a la particularité d'être de la région des Torres Strait Islands. Donc ces îles qui sont situées entre l'Australie continentale et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, c'est un aborigène australien de cette zone qui s'est battu pendant très longtemps pour la reconnaissance de ses terres ancestrales. Et au début de son combat, il s'est battu contre l'État du Queensland, donc dans les années 70 et 80, qui était un État notoirement corrompu à l'époque. Et au moment où il allait gagner au niveau étatique, le premier ministre de l'État du Queensland à l'époque est intervenu, et Mabo s'est fait débouter. Mais ce dernier ne s'est pas arrêté à la cour de l'État, puisqu'il a déposé un recours auprès de la cour fédérale, la High Court de l'Australie, qui a lancé une enquête pour savoir si effectivement M. Mabo avait des droits qui auraient subsisté à la colonisation sur ces terres. Et il a réussi à prouver qu'il en avait. Et alors là, si vous me permettez, il faut un petit détour historique pour bien comprendre ce qui se passe. Dans l'entreprise de colonisation mondiale qu'ont mené les puissances européennes, vous pouviez, si vous étiez un royaume, déclarer qu'une terre vous appartenait si elle était inhabitée. Alors ça se base vraiment sur des points de droit et même d'histoire religieuse médiévale où voilà, vous pouviez saisir une terre si elle n'était pas possédée. Donc, a priori, quand la France ou la Grande-Bretagne explorent l'Australie, ils savent très bien que cette terre est habitée puisque ils décrivent les aborigènes australiens par des textes, par les lettres qu'ils envoient et surtout par les dessins qu'ils font. Donc, on sait très bien que les aborigènes sont là. Simplement, il faut la fiction légale pour pouvoir coloniser. Et donc, la Grande-Bretagne déclare l'Australie « terra nullius », une terre sans maître, une terre vide. Donc, c'est une fiction légale qui permet à la colonisation d'avancer. Cette colonisation, on la connaît, elle avance à marche forcée, les Britanniques déportent des condamnés, puis après des hommes libres pour coloniser et par la même prendre la terre des aborigènes. Ces derniers résistent, hein, en Tasmanie, les historiens sont d'accord pour parler de génocide. Tout au long du territoire australien, vous avez des massacres et la terre est prise. Et pendant des dizaines d'années, les aborigènes disent « Mais attendez, c'est à nous, c'est chez nous, nous étions là avant, cette terre nous appartient. » Or, dans le système légal australien, jusqu'au cas Mabo en 1992, les aborigènes n'ont pas de droit sur leur terre. Et donc, le cas Mabo de 1992 est une révolution en Australie parce qu'elle reconnaît que cette terre appartenait avant la colonisation aux aborigènes.
C'est cette décision de justice qui abolit le concept de terra nullius qui ouvre la voie au système de rétrocession des terres, ce qu'on appelle en anglais les native titles, les land rights, etc., qui permettent à certaines communautés aborigènes, dans des conditions bien particulières, de revendiquer la propriété d'une partie du territoire australien.
Absolument. Et alors, on va revenir à Mabo, parce que ça, c'est vraiment important. Mabo n'est pas sur le territoire continental australien, comme je vous l'ai dit. Il vient des îles du détroit de Torres. Et dans ces îles, il y avait un certain concept de propriété privée. C'est-à-dire qu'un aborigène d'Australie continentale, vous avez une relation à la terre qui est totalement différente. Les aborigènes ne possèdent pas la terre, ils en font partie. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez une organisation de vie communale avec des territoires, mais sans réelles frontières et sans propriété privée, comment vous allez pouvoir prouver que ça vous appartient dans un système légal anglo-saxon où la notion de propriété est totalement reine. Donc, si vous ne pouvez pas dire « oui, ça m'appartient parce que j'ai des documents, parce que voici une frontière avec mon voisin très précise », vous ne pouvez pas obtenir de vous faire entendre par les cours australiennes. L'intelligence de Mabo et des groupes qui l'ont soutenu, c'est d'avoir sélectionné des îles très précises, et qui dit île dit territoire forcément beaucoup plus restreint, dans le détroit de Torres, et de dire « voyez, regardez, je vais vous emmener, messieurs les juges de la Cour suprême, et je vais vous montrer quelles étaient les délimitations de terrain, et je vais vous montrer des objets physiques, des pierres, des arbres qui séparent ces parcelles. » Et à partir du moment où il y a l'idée de propriété privée, il peut y avoir l'idée de privation de cette propriété par la colonisation. Et donc, ce que Mabo arrive à prouver, autorise à mettre en place un système, celui que vous avez mentionné, les native titles, qui stipule que si les aborigènes arrivent à démontrer qu'il y a une continuité dans leur utilisation de telle ou telle terre, alors, si cette terre n'est pas propriété privée d'un Australien, mais si cette terre est la propriété de l'État ou du Commonwealth, dans ces cas-là, il y aura peut-être des mécanismes pour pouvoir voir que cette terre soit réattribuée aux communautés aborigènes. Mais c'est extrêmement compliqué, d'une part, et ce sont des cas assez limités. Et par ailleurs, quand vous êtes une civilisation de l'oral, comment arrivez-vous à prouver une utilisation ininterrompue de vos terres ancestrales ? Donc, le système qui a été mis en place permet la reconnaissance des terres aborigènes, mais de façon très, très, très limitée tout de même.
Un mot peut-être sur le juge qui a rendu cette décision, Sir Gerard Brennan. Il se trouve qu'il est décédé hier, mercredi, à l'âge de 94 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du magistrat qui a rendu cette décision et du contexte dans lequel il l'a rendu ?
Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, Sir Gerard Brennan, bon, déjà, de mémoire, je crois que c'était un catholique convaincu et surtout quelqu'un qui avait à cœur la notion des droits de l'homme. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il opère dans un contexte où tout le monde sait bien que Terra Nullius est une fiction. À l'époque, on vient de fêter le bicentenaire de la colonisation en 1988, puisque l'arrivée de la première flotte, c'est en 1788. Tout le monde sait qu'évidemment, avant la première flotte, il y avait des aborigènes et qu'à partir de ce moment-là, la terre leur a été volée. Donc, il arrive dans un contexte où on est sous un gouvernement travailliste, celui de Bob Hawke. Et Bob Hawke, à l'époque, promet aux aborigènes, chose qu'il n'a pas réalisée, d'arriver à un traité pour 1990. Donc, Brennan, il opère dans ce contexte assez progressif d'un gouvernement travailliste, dont il est complètement dépendant puisqu'il est juge à la Cour suprême australienne. Il est dans un contexte où la population australienne soutient un changement. Et donc, il a ce mandat, entre guillemets, populaire d'autoriser un changement à la fiction légale sur laquelle tout le système de propriété australien est fondé. Donc, il arrive dans un moment où non seulement le gouvernement fédéral, mais aussi la population australienne est ouverte à se poser la question de savoir, bon, nous sommes ici pour rester, comment pouvons-nous travailler avec les aborigènes pour reconnaître qu'effectivement cette terre leur appartient. Et c'est ce qu'il arrive à faire de façon révolutionnaire, mais dans un cadre légal qui doit être réécrit. Et c'est là où on retrouve une opposition avec les libéraux qui vont dire « Oh là 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 là, attendez, c'est très bien de reconnaître que les aborigènes étaient là avant, mais on va pas pouvoir leur redonner toutes leurs terres. » Et donc, après le gouvernement Hawke, vous avez le gouvernement Keating qui continue à légiférer justement sur les native titles en 93, puis en 96. Et après arrive John Howard en 96, un libéral, qui là met le holà, entre guillemets, sur ce retour aux terres et impose des conditions beaucoup plus strictes de sorte à ce que les aborigènes ne puissent pas demander le retour de terres pastorales, par exemple, agriculture, parce que vous avez des enjeux économiques majeurs sur les mines et sur l'agriculture, et bien sûr, les fermiers très, très riches et très puissants des terres australiennes s'opposent complètement à un retour aux terres aborigènes. Donc vous avez ce mouvement de balancier, et Brennan arrive au bon moment.
Un peu de mélancolie heureuse, comme la quiétude d'une caresse, comme une tonasie joyeuse, bien l'opposé de la détresse.
C'était un peu de mélancolie heureuse chantée par Tim Dupp. J'espère que vous avez apprécié cette chanson autant que nous, on l'aime ici à SBS French. On reprend l'interview de l'historien Romain Fati par Grégory Pless et nous faisons un bond dans l'histoire 30 ans plus tard, 2022, avec la nomination du nouveau gouvernement travailliste et de ses promesses à l'égard des communautés aborigènes.
We'll be right back.
21 mai dernier, élection d'un nouveau gouvernement travailliste. Anthony Albanese, dès sa première prise de parole et quasiment au tout début de son discours, a fait référence aux aborigènes, aux insulaires du détroit de Torres et à son souhait notamment de mettre en œuvre et de concrétiser les propositions faites dans la déclaration d'Uluru et de manière générale d'améliorer autant que possible le sort des aborigènes d'Australie qui, on le sait malheureusement, vivent dans des conditions infiniment pires que le reste de la population. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? Est-ce que... cette envie d'améliorer les choses, elle est sincère ? Est-ce que c'est juste pour faire joli, montrer qu'on est différent du gouvernement libéral qui était en place depuis 9 ans ? Enfin, qu'attendre de ce gouvernement pour la question aborigène ?
Alors, ces déclarations, elles sont à la fois sincères et extrêmement politiques. Par politique, j'entends qu'aujourd'hui, la grande majorité des Australiens soutient une idée de traité ou de reconnaissance ou de pacte avec les aborigènes. Donc, si vous voulez, du point de vue politique, c'est très intéressant parce que il y a plus de débat. Sauf chez les ultra-libéraux conservateurs que nous avions au pouvoir il y a encore quelques semaines, qui, on s'en est bien rendu compte, représentent une minorité des Australiens. Ceux-là sont arc-boutés contre toute reconnaissance supplémentaire des aborigènes. Mais quand on regarde les sondages, une grande partie des Australiens, même les libéraux modérés, soutiennent un type de traité ou de reconnaissance plus formelle qui pourrait s'inscrire peut-être au Parlement. Donc, si vous voulez, du point de vue du gouvernement Albanese, il a tout intérêt à s'inscrire dans l'histoire. Par ailleurs, il est porteur d'une tradition de ce côté-là. On a parlé des Native Titles, on a parlé de Mabo. Tout ça, c'est le gouvernement travailliste de Bob Hawke, puis le gouvernement travailliste de Paul Keating. On se souvient de l'excuse officielle donnée par le gouvernement encore travailliste de Kevin Rudd pour reconnaître les générations d'aborigènes volées à leurs parents. Et donc, Albanese s'inscrit dans cette tradition travailliste de reconnaissance et surtout d'avancées culturelles qui suivent, plutôt qu'elles n'anticipent, la volonté et la perception du peuple australien en entier. Donc, il arrive à un bon moment. Et pourquoi ? Parce que en 2017, vous avez eu des conventions d'aborigènes dans tout le pays, dans toute l'Australie, qui aboutit sur ce qui s'appelle le Uluru Statement from the Heart, la déclaration du cœur d'Uluru, si vous voulez. Et cette déclaration, si vous voulez, qui est le fruit d'une convention nationale des aborigènes, demande plusieurs choses. Elle demande une voix au Parlement pour les aborigènes, une voix consultative plutôt qu'exécutive ou législative.
Ouais, juste un point rapide sur ça, donc voix VOIX. L'idée, ce serait de créer donc à Canberra une institution représentative des différentes communautés aborigènes et qui aurait un droit de regard, en tout cas le droit de donner leur avis sur toutes les législations concernant de près ou de loin les populations indigènes australiennes. C'est ça, hein.
Voilà, c'est-à-dire que il n'y aura pas de remise en question du système parlementaire australien. Si vous êtes élu, vous avez voix au chapitre, vous vous retrouvez au Parlement et le Parlement a le pouvoir législatif. En revanche, ce qui serait proposé avec le Uluru Statement from the Heart, c'est d'avoir un corps ou une formation qui se prononcerait au moment des votes ou de la législation en disant sur tel sujet, voilà ce que pensent les communautés aborigènes, puisqu'évidemment, quand on dit les aborigènes, il s'agit de centaines de peuples différents avec des langues aussi différentes. Et donc, ce n'est pas un pouvoir exécutif, ce n'est pas un pouvoir décisionnaire, ce n'est pas un pouvoir législatif, ce serait un pouvoir consultatif. Et l'idée pour eux est que, en intégrant la voix des aborigènes, les lois ne seront plus faites pour les aborigènes, mais en consultation avec eux. Donc voilà, il ne s'agit pas d'un changement révolutionnaire, les aborigènes ne vont pas être au Parlement avec un droit de veto sur le système parlementaire australien, non, pas du tout. Encore une fois, ce sont des progrès, on pourrait dire, à minima, mais ce sont des progrès importants. Pourquoi ? Parce que ça fait des décennies que les aborigènes australiens disent « mais nous n'avons pas de traité, cette terre nous a été volée et encore aujourd'hui, en 2022, ceci n'est pas reconnu ».
Romain Fati, l'une des autres revendications très fortes de la communauté aborigène, en tout cas exprimée dans cette déclaration d'Uluru du fond du cœur, c'est l'institution d'un traité. Ça existe dans plusieurs autres anciennes colonies, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Afrique du Sud, je crois également. Il n'y en a pas en Australie. Concrètement, c'est quoi ce traité entre un gouvernement et les populations indigènes d'un pays et pourquoi en Australie on en demande un et on pense que c'est essentiel ?
Alors, il y a deux volets. Il n'y a pas de traité en Australie. Pourquoi ? Parce que l'Australie a été colonisée à marche forcée et les aborigènes n'ont pas pu s'unir d'une façon qui aurait permis de s'opposer militairement à la colonisation, telle qu'on l'a vu dans d'autres espaces colonisés, comme la Nouvelle-Zélande ou le Canada, vous l'avez rappelé. Et donc, les Maoris, par exemple, ont pu se battre, et à partir du moment où vous avez un peuple qui se bat contre vous, bon, vous cherchez à établir un traité pour pouvoir continuer à coloniser sans que vos citoyens soient tués ou qu'il y ait des engagements militaires. Et le grand malheur de la colonisation en Australie pour les aborigènes, c'est que les maladies, les massacres, les conquêtes militaires se sont faites d'une façon où leur résistance, c'était le pot de fer contre le pot de terre, très clairement. Et donc, depuis très très longtemps, vraiment tout au long du XXe siècle, les représentants aborigènes ont demandé à ce qu'il y ait un traité pour dire, voilà, cette terre était à nous avant et aujourd'hui nous reconnaissons tel et tel paramètre pour pouvoir travailler ensemble. Aujourd'hui, le Statement from the Heart demande ce qu'ils appellent un Makarata. Makarata, c'est un synonyme pour le mot traité, mais ceci, c'est plutôt un processus qu'un traité, c'est-à-dire l'idée de dire la vérité et de proposer des moyens d'aller ensemble en avant. Donc, encore une fois, ce sont des petits progrès, mais ce sont des progrès très importants, parce que ça permet aux aborigènes de dire, voilà, on reconnaît le passé, on reconnaît ce qui a été, les violences qui ont été faites à tous les peuples aborigènes, mais en même temps, on ne vous demande pas de retourner en Grande-Bretagne et de partir de l'Australie. On va proposer un modèle dans lequel on va pouvoir travailler ensemble. Et c'est exactement ce que fait le Uluru Statement from the Heart, et c'est pour ça que le gouvernement albanais le soutient. Comme vous l'avez rappelé, le Premier ministre a dit « Nous allons mettre en œuvre toutes les demandes du Uluru Statement from the Heart ». Alors, ça va bien évidemment prendre des années. Il y aura probablement un référendum qui sera nécessaire, parce qu'il s'agit quand même de changements très importants. Mais ce qui a été refusé depuis 2017 par les gouvernements libéraux devient maintenant totalement accepté et vraiment à l'ordre du jour pour le gouvernement travailliste, qui peut compter vraiment sur un soutien populaire sur ces questions-là.
D'accord, donc si je comprends bien, ces avancées, elles vont prendre encore un petit peu de temps, mais au moins, elles ont le mérite d'être mises sur la table et de faire l'objet de véritables discussions.
Totalement.
Merci beaucoup Romain Fati pour vos lumières, comme d'habitude, et à très bientôt sur notre antenne.
À très bientôt, je vous remercie.
Sur SBS French, l'heure du rappel des titres. Centième jour de la guerre en Ukraine, la Russie poursuit son offensive. Elle détient 20% du territoire ukrainien selon Kiev, qui pourtant l'assure par la voix de son président, l'Ukraine va gagner cette guerre. La reine Elisabeth II absente des festivités du jubilé qui célèbre ses 70 ans au pourvoir. On l'a vu le premier jour, c'était jeudi. Depuis, la souveraine de 96 ans se repose, de quoi relancer les questions sur son état de santé. Emmanuel Macron détaille la ligne directrice de son second mandat dans une interview accordée à la presse régionale, écologie, pouvoir d'achat, institutions. Le chef de l'État veut réunir un Conseil national de la refondation s'il gagne les élections législatives. Et enfin, du sport, l'affiche pour la finale homme de Roland-Garros. Raphaël Nadal contre Rude 2 ce dimanche, 14e finale sur la terre battue parisienne pour Rafa. Il n'en a perdu aucune. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Si vous voulez la réécouter en entier ou alors juste le journal des sports ou bien les chroniques, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french, sur notre page Facebook, Spotify ou encore sur toutes les plateformes de podcast préférées. Votre prochain rendez-vous avec l'information en français, c'est demain dimanche. Je vous souhaite une excellente journée.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.